Bienvenue dans la version française de l'interview diffusée dans Yolala 21 sur un activiste hip-hop. Un petit rappel, si vous avez manqué le message et que vous êtes un Français expatrié, allez vous inscrire sur les listes électorales du consulat le plus proche. C'est chiant, personne n'aime aller passer une après-midi au consulat du coin, mais faites-le, merci de nous éviter une catastrophe comme la dernière fois. Alors, l'interview se passe en deux parties, juste pour des raisons techniques, il a fallu qu'on se déplace. Ça a été fait par téléphone, et le son devient de meilleure qualité à peu près à la moitié, donc restez au moins jusqu'à 15 minutes. Et puis voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. À l'année prochaine.
Alors Julien, bonsoir. Je t'ai présenté le mois dernier comme étant quelqu'un qui a obtenu un DEA en hip-hop. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu est-ce que c'est vraiment
un
hip-hop et est-ce
un
que...
DEA en hip-hop, alors... En fait, j'ai obtenu un DEA, donc maintenant c'est master de recherche, c'est juste avant le doctorat de sociologie. C'est une filière à Nanterre, Paris 10, qui s'appelle Mutation des sociétés contemporaines. C'est de la socio-anthropologie, donc c'est une alliance entre l'anthropologie et la sociologie. Au niveau des techniques, on utilise pas mal les techniques d'ethnographie, anthropologie, on s'intéresse au social et aux formes de regroupement. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé au niveau du hip-hop, aux formes de regroupement, au posse, au crew notamment.
Alors le titre, techniquement, stricto pour les experts, le titre c'était quoi du mémoire?
Alors c'est normalisation d'une culture populaire et contrôle social.
Waouh, c'est beau. Donc il n'y a même pas le mot hip-hop en fait dans le titre.
Non, c'est la culture populaire. Mais après, quand je parle de donc, normalisation d'une culture populaire, c'est aussi pour prendre l'angle, enfin, pour pas réduire la chose simplement au hip-hop, parce que dans toutes les sciences sociales, quand on s'intéresse à quelque chose de très précis, c'est toujours pour dégager des enjeux plus larges et transversaux. Donc, dans le titre, on parle de culture populaire, mais dans le sujet, la culture populaire en question, c'est le hip-hop en fait.
Mmh. Et comment l'université, les profs qui ne sont pas forcément de la même génération que toi ont pris le sujet?
Ouais.
Comment ils ont accueilli ça en fait?
Bah écoute, moi dans mon enseignement, on est déjà en sociologie, il y a la sociologie du travail, sociologie politique, et moi je suis sociologie du monde contemporain, enfin ce que je t'ai dit tout à l'heure, mutation des sociétés contemporaines, donc c'est déjà quelque chose de très particulier, et donc j'ai la chance d'avoir des enseignants et qui sont assez ouverts, et puis depuis la fin des années 90, ils commencent quand même à avoir l'habitude d'avoir des étudiants qui traitent des sujets comme ça. Moi, dans mes deux dernières années, que ce soit en maîtrise, en DEA, etc., il y avait des gens qui étudiaient les gothiques, des gens qui étudiaient les mouvements, les musiques électroniques, la techno, le hip-hop, ça venait de temps en temps, donc c'est... Je pense que les enseignants commencent quand même à avoir l'habitude, et il y a un ou deux enseignants, dont celui qui m'a suivi, Pierre Bouvier, qui commence à avoir une certaine expérience là-dedans, donc ça s'est bien passé, et à partir du moment où on traite ces choses-là, sous un angle qui les intéresse, en fait, ça se passe très bien, parce que voilà, c'est ce qui fait la... Le hip-hop, ça fait partie de la société d'aujourd'hui, donc c'est normal de l'étudier, quoi. Ça arrive souvent que les individus se regroupent en tribu ou en groupe, un peu pour se retrouver ensemble face à la société globale et société le monde du travail, etc. Et c'est une forme de pour recréer du lien social dans une société qui est un peu qui favorise pas spécialement le rapprochement entre les individus et qui est plutôt caractéristique d'un délitement du lien social. Donc il y a différentes formes, il y a les jeux de rôle, il y a des gens qui étudient les jeux de rôle, c'est des gens qui se regroupent entre eux, il y a le hip-hop, le crew, les crews, les possis, donc voilà, il y avait une correspondance directe avec son approche.
Et on reviendra plus tard un peu à l'évolution, mais je suppose que tu as dû avoir une partie un petit peu historique sur l'évolution du hip-hop. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est quand j'ai commencé à écouter du rap français, pour être précis, c'était très justement possible, machin, et on parlait encore de mouvement hip-hop. Il y avait vraiment l'impression d'avoir un mouvement. Maintenant, il y a un business, il y a des groupes d'amis, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un mouvement hip-hop. Et est-ce que ça faisait partie des choses qui étaient étudiées dans ta recherche?
Ah, mais je pense qu'il y a un mouvement. Avant, il y avait un mouvement peut-être plus identifiable parce que c'était moins culture et des pratiques de masse, quoi. Donc c'était plus restreint et on pouvait peut-être avoir une représentation de physique quasiment, et même on pouvait dénombrer les gens qui faisaient partie du mouvement parce qu'il y avait quelques lieux très identifiés. Quelques groupes, etc. Donc on pouvait peut-être plus avoir une représentation à échelle humaine de ce qu'était le mouvement hip-hop. Mais maintenant que c'est depuis les années, la fin de la deuxième partie des années 90, et que le hip-hop a eu un boom médiatico-commercial un petit peu aux alentours de 97-98, et c'est vraiment devenu la culture de masse, une culture vraiment générationnelle, tous les jeunes maintenant de 11-12 ans jusqu'à 25 ans, enfin pas tous, mais une grosse partie de la jeunesse sont touchés par le hip-hop, par les, on va dire, ce qu'est devenu le hip-hop. Enfin, donc il y a un hip-hop de masse, il y a toujours un hip-hop underground, il y a des différents courants, etc. Mais donc c'est vrai que maintenant c'est quand même, il y a un mouvement puriste qui existe. Il y a des anciens qui se reconnaissent entre eux, mais il y a même différentes tribus dans le hip-hop. Il y a les danseurs et les rappeurs, ils se côtoient quasiment jamais, à part il y a des anciens qui regroupaient un peu toutes les, qui étaient des fois des danseurs, qui avaient taillé, qui avaient essayé de faire du rap, donc eux ils cumulaient un peu toutes les facettes du hip-hop. C'est ce qui était caractéristique du début du hip-hop des années 80. Maintenant il y a différents, avec l'expansion de tout ça, il y a des marchés qui se sont créés. Il y a le marché de la danse, il y a le marché de la musique, enfin ça c'est le plus gros des marchés d'ailleurs. Il y a le marché du graffiti qui est un peu plus restreint, c'est plus les galeries, c'est peut-être plus donc la discipline du hip-hop qui est restée underground, vandale, et sinon c'est le passage en galerie, etc. Et donc il y a différents petits mouvements, et c'est vraiment, sinon c'est un petit peu, sinon il y a tout le un peu commercial, très large, de masse, quoi.
Ouais, et alors, justement, toi, tu as participé à l'approche de prendre le hip-hop et de l'amener à la masse, ou de parler de la culture et de la faire passer dans des canaux un peu plus reconnus. Et le premier événement donc, auquel tu as participé, alors c'était Paris Hip-Hop. Est-ce que tu peux expliquer en deux, trois mots en quoi ça consistait?
Ouais. En fait, Paris Hip-Hop, c'est l'aboutissement d'un travail qui a commencé d'ailleurs sans moi, qui a été initié par Bruno Laforesterie, qui est le directeur de la radio Génération, qui est une radio régionale type de France, donc la région de Paris, enfin la région dont Paris est le centre en fait, donc qui est la radio hip-hop soul d'Île-de-France. Qui fait figure de référente dans la région. Et donc il y a eu un travail un peu de sensibilisation des institutions parisiennes pour essayer de leur faire comprendre l'utilité et la légitimité d'une reconnaissance du hip-hop, et à travers ça une reconnaissance un peu des nouvelles populations, des populations qui se reconnaissent dans cette culture. La France d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, jusqu'à de 10 ans à 40 ans, et des populations issues des immigrations africaines, etc. Enfin, mais pas seulement, enfin, antillaises, même du Portugal, de l'Espagne, je sais pas. Enfin, et donc, Paris Hip-Hop, c'est né de ça. Il y a eu une étude qui a été faite. Moi, j'ai rejoint le petit groupe de travail travaillait sur ces questions-là pour essayer de produire de la connaissance autour de ça et présenter ça un peu aux institutions parisiennes pour leur traduire dans les termes qu'ils comprennent ce qu'était le hip-hop, ce que Paris représentait historiquement dans l'histoire du hip-hop français et européen, et le déficit d'implication des institutions culturelles et des institutions parisiennes, d'Île-de-France, dans ce domaine-là. Et donc une des propositions à la suite de tout ce travail de diagnostic du hip-hop, de relations avec les institutions, tout ce travail-là, ça a été une des propositions, c'était de créer Paris Hip-Hop. Donc Paris Hip-Hop, c'est le concept, c'est la quinzaine du hip-hop à Paris, ça se déroule sur 2 semaines, et essayer de représenter toutes les disciplines, donc le graffiti, le rap, la musique, le DJing, le turntable, la danse, des expositions, des débats. Donc voilà, et la première édition de Paris Pop a eu lieu l'année dernière, du 19 juin au 4 juillet. Donc on a fait dans des conditions un peu difficiles, mais ça s'est fait. Et donc là, on travaille sur la seconde édition qui devrait se dérouler du 22 juin au 8 juillet. Voilà.
Et donc aussi, il y avait des films aussi, mais juste au niveau des pouvoirs publics, parce que ça fait quand même grosso modo 25 ans qu'il y a du rap en France. Et il n'y avait eu jamais avant ça d'événements d'envergure sur le hip-hop en France, quoi.
Depuis le début des années 80, et en fait, l'implication du monde politique français et des institutions culturelles, elle n'est pas nouvelle. Ça fait depuis les années 80, en fait, que les politiques culturelles et les institutions culturelles s'impliquent dans le hip-hop d'une certaine manière. Après, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais donc, il y a eu tout un soutien des institutions culturelles, par exemple aux compagnies de danse. Et donc, en 94 ou 95, il y a eu les premières rencontres des cultures urbaines à la Villette. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important qui a encore lieu aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est un peu en baisse de régime. Et ça concerne que la danse hip-hop. Et après, ça concerne aussi que une partie de la danse hip-hop, qui est les compagnies proches de la danse contemporaine, donc proches de la culture légitime. Donc c'est piloté un peu par des institutionnels de la culture. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais sinon, dans les gros événements hip-hop, je pense que c'est tout ce qu'il y a eu. Donc là, tu me parlais. Il y a eu Rue au Grand Palais qu'on a fait.
Alors voilà, justement, la SAS, donc ça c'était cette année. Et ça fait un bruit assez énorme. Donc, moi je vis en Suisse, et bon, on a les chaînes françaises. Et, mais c'était partout, quoi. Dans la presse, sur internet, à la télé, il y a eu des émissions spéciales. On a vu le ministre de la Culture, on a vu sa tête partout, on a vu des graffeurs, on a vu tout un tas de trucs. Là, c'est national. Là, c'est le gouvernement français qui crache des sous pour faire un événement assez impressionnant. Et toi, t'as fait quoi alors dans cet événement ?
Alors moi, j'étais un peu le relais de Génération. J'étais chef de projet à la radio Génération, dont je te parlais tout à l'heure, pour laquelle je travaille. Et j'étais le coordinateur musique slam pour cet événement. Je me suis occupé du programme de la journée sur la scène centrale. J'ai booké les DJ, les rappeurs, toujours en collaboration avec Radio Nova, parce que moi je représentais Génération, mais j'étais coordinateur musique et la programmation était Nova et Génération. Mais cet événement, c'était... personnellement, j'ai pas cherché à être trop médiatisé autour de cet événement parce que, on m'a proposé ça, c'est tombé au milieu de l'été, on a fait ça en un mois et demi, 2 mois, c'était vraiment la course. Ça me faisait du travail personnellement, tu vois, déjà. De toute façon, si j'étais pas là, c'est quelqu'un d'autre qui le ferait.
Donc moi je me demandais, quand t'es allé voir les rappeurs, les DJ, tu leur as présenté ça comment ? Tu leur as dit ta radio s'occupe de faire un show ? Tu leur as dit voilà, le gouvernement nous a filé du fric, on peut faire ce qu'on veut ? Ou comment t'as fait en sorte que les gens viennent en fait ?
Ouais. Et ben en fait, je leur ai dit, voilà, on nous a... En gros, comme tu dis, il y a le gouvernement, il y a le ministère de la Culture qui organise un événement au Grand Palais. C'est quand même une opportunité d'investir un des plus grands lieux de la culture. Et il va avoir une grosse couverture, etc. Donc je leur ai présenté ça comme... comme quelque chose d'assez positif, où il pouvait avoir des bonnes retombées pour tout le monde, etc. Et qu'il fallait faire quelque chose qui pète, voilà quoi. Après, et puis en même temps, j'avais c'était Génération qui était derrière, donc Génération, ça a quand même une certaine légitimité. Et donc ils ont confiance quand même dans le cadre de Génération. Les artistes, ils passent toute la journée, c'est vraiment la radio de référence.
Parce que pour expliquer aux gens quand même, le Grand Palais, donc c'est un, pour les Américains, c'est une espèce de verrière énorme, c'est la taille d'un pâté, ouais, de maison. Il y a combien de personnes finalement qui ont pu venir pendant ces trois jours?
En fait, en tout, il y a eu 50 000 visiteurs en trois jours. C'est-à-dire que le Grand Palais, la jauge, c'était 5 000 visiteurs en même temps.
Et niveau public, c'était quoi? Il y avait de tout, justement. Il y avait plutôt des fans de hip-hop, plutôt des gens qui... Parce que c'est à côté des Champs-Élysées, plutôt des gens qui se baladaient sur les Champs-Élysées et qui sont venus par hasard. C'était quoi le genre de public?
C'était un gros mélange, en fait. Il y avait des fans de hip-hop, il y avait même des anciens... Il y avait des artistes qui jouaient, qui recroisaient leurs potes, les graffeurs qui étaient là. Il y a quand même Acre qui s'occupait du graffiti, qui a regroupé les BBC. Et voilà, il y avait tout le monde qui se croisait. Il y avait des familles, des mamans qui venaient avec leurs enfants. Donc c'était très mélangé, quoi.
Ouais, parce que moi, enfin, le souvenir perso, vu que forcément j'étais pas en France à ce moment-là, c'est que mon père a vu son premier battle de rap quand même. Et il a apprécié, donc...
Ouais. C'est ça, disons qu'on peut pas nier quand même, malgré qu'on sait très bien que c'est dans un timing électoral que ça s'est fait, c'est-à-dire que le ministre de la Culture, il a décidé de faire ça. On sait très bien que dans 5-6 mois, c'est les élections présidentielles. On sait très bien qu'il y a un an, c'était les émeutes des quartiers populaires, des cités, etc. Donc ça vient en réponse. Qu'on le veuille ou non, il y a un enjeu électoraliste, etc. En même temps, s'ils font rien, on va leur dire aussi qu'ils font rien. Voilà. Et donc on ne peut pas nier qu'il y a des choses positives, c'est-à-dire que le clampin qui est à la campagne, etc. Enfin bon sang, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas de problème avec les gens qui viennent de la campagne, mais je veux dire les gens qui connaissent rien, les papas, les mamans, qui sont des gens qui sont très éloignés, ils ont pu voir quand même ce qui se faisait, et la plupart, il y a eu que des bons échos, les gens ont apprécié, et donc ça participe quand même à améliorer, à faire connaître des expressions artistiques qui sont mal connues et dont qui sont les purs produits de gens qui aujourd'hui, à travers les médias et dans la société, les gens des quartiers, des cités, etc., pour beaucoup c'est des délinquants, c'est l'insécurité, donc qu'on veuille ou non, ça a donné quand même une image vachement plus positive que ce qu'on voit depuis quelques années dans les médias et dans la société, quoi.
Donc là, t'as dit globalement bilan positif pour Paris Hip Hop, dit que ça allait se refaire, donc la rue, cet événement là moi j'avais vu le ministre à la télé dire que ça allait se refaire, donc là t'es reparti pour faire ça tous les ans, là c'est ton nouveau métier.
Non, mais moi, franchement, pour tout te dire, moi, je peux te donner un scoop. Là, on est sur un média assez underground. Donc, voilà, moi, j'ai fait des réunions de débrief, etc. Et là, ils veulent faire un événement en janvier ou février en province. Donc, ce qui est pressenti, c'est faire un événement à Marseille. C'est une volonté du ministère de la Culture, pareil. Et donc Marseille, il faut savoir que c'est la deuxième ville la plus importante de France, dans le sud de la France, c'est la deuxième ville la plus importante aussi au niveau du hip-hop. Donc voilà, après moi quand ils m'ont dit ça, mon premier réflexe a été de dire oh là là, non mais c'est pas possible, je vais pas partir en campagne pour la droite française avant les élections. Et voilà, c'est encore parce qu'ils nous ont mis dans des conditions quand même difficiles, on a fait le truc en un mois et demi, là on va refaire, là c'est encore des conditions, j'ai l'impression que voilà, ils mettent les derniers budgets là-dedans avant les élections, donc. Moi, c'est vraiment pas mon délire. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de. Enfin, et d'ailleurs, ce qu'ils devraient faire plus, c'est de soutenir les initiatives qui existent déjà et qui émanent des acteurs. Parce que il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'artistes, et c'est des gens déjà qui essaient de faire des choses et qui essaient de créer des choses. Et c'est pas balancer du fric comme ça ponctuellement à un certain moment qui va. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de soutenir ce qui existe déjà, d'après moi. Donc soutenir par exemple Paris Pop, ça c'est un truc que je maîtrise de A à Z avec les partenaires qu'on choisit. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur.
Et alors justement, pour parler bassement pognon et choix de carrière, avec un DEA en sociaux sur les cultures urbaines, n'est-ce pas? Tu vas faire quoi de ta vie après? Alors tu vas bosser à la radio, c'est quoi le plan? Comment en France, quelqu'un qui a un diplôme en hip-hop peut manger?
Un diplôme en hip-hop, toujours. Eh ben, c'est un peu difficile. Hein. Pour l'instant, justement, comme je te disais, rue au Grand Palais, c'était quand même une opportunité de travail aussi. Une opportunité de pouvoir infiltrer un peu le milieu des institutions pour voir comment ça se passe. Mais en gros... la structure qui porte Paris Hip Hop, c'est une association qui s'appelle Hip Hop Citoyen. C'est l'association du patron de génération, du directeur de génération. Et donc, en France, c'est l'État et les institutions qui supportent la culture, contrairement aux pays anglo-saxons, où c'est plus des initiatives privées, des organismes privés, etc., qui font des événements. En France, il y a une tradition comme ça, c'est l'État qui est assez important et qui supporte la culture. Donc nous, par le biais de l'association Hip Hop Citoyen, on fait des demandes de subventions. Donc moi, là, je vais avoir un poste, je vais être salarié de l'association et je vais normalement être... c'est un poste qui doit être subventionné par la région, le conseil régional d'Île-de-France. Mais après, donc il y a ça. Après, moi, je continue. Pour l'instant, j'arrête un peu, mais je pense que je vais quand même continuer. Peut-être dans un an, je vais me réinscrire. Je vais me lancer dans une thèse. Et voilà. En ce moment, vu que c'est un sujet brûlant, les cultures urbaines, les cités, le hip-hop, etc. Moi dans mon domaine, je pense que j'arriverai à trouver des financements. J'ai des directeurs de mémoire, des enseignants qui sont déjà prêts à me suivre. Donc il y a ça. Voilà, après c'est différentes choses, mais c'est un petit peu précaire pour l'instant. Mais voilà, puis si ça marche bien, Paris Hip Hop, et si on arrive à avoir tous les soutiens qu'on veut, voilà, ça peut générer une petite stabilité professionnelle, quoi.
Bon, bah, c'est cool. Alors maintenant, on va parler un peu plus musique. Toi, personnellement, t'as commencé par écouter quoi? Et aujourd'hui, t'écoutes quoi? Qu'est-ce qui te plaît actuellement comme groupe, comme artiste dans le rap français?
Alors moi, j'ai commencé par écouter NTM. Le premier truc que j'ai écouté, c'était... J'arrivais au collège, donc... Et j'avais le premier album de NTM, c'était Authentique, donc voilà, ça c'est le premier truc de rap que j'ai écouté en boucle. Après j'avais en fait un cousin suisse, enfin qui habitait à Genève, et lui était un tagueur, enfin des plus gros taggeurs de Genève, et lui il était à fond dedans, il m'a fait toutes mes premières cassettes. J'ai commencé par écouter Gangstar, Ice Cube, N.W.A., Fouchnikens, etc., Lords of the Underground. Donc j'ai commencé avec Black Sheep et compagnie. Donc j'étais baigné directement là-dedans. Et donc j'ai écouté beaucoup beaucoup de rap américain en fait, mm-hmm. de la côte est on va dire, pour faire simple, malgré, bon. Après il y a eu l'époque du Wu-Tang, etc. Et donc voilà, après j'étais vraiment, j'ai suivi ça pendant des années, j'ai suivi un peu toute l'évolution du rap américain, et j'écoutais aussi quand même du rap français, voilà, avec des groupes comme La Clica, comme les X-Men, Time Bomb, etc. Et donc petit à petit, après vers les années 2000, il y a quand même des choses dans l'évolution de la musique qui ont du rap qui m'ont, voilà, qui me satisfaisaient pas. Il y a eu l'explosion vraiment, même en France, il y a eu une radio qui s'est mise, Skyrock qui s'est mise du jour au lendemain à diffuser du rap, et ça a provoqué toute une transformation du rap français, des rappeurs français qui se sont adaptés à un nouveau média grand public, donc ça a transformé la rap un petit peu. Donc à ce moment-là, j'étais un peu, voilà, ça m'a un peu dégoûté même, on va dire, de comprendre l'évolution du hip-hop, etc. Ce que j'écoute maintenant, toujours beaucoup de rap américain, mais quand même moins. Enfin, j'écoute des artistes comme J Dilla, j'écoute, là, il y a le dernier Hi-Tech, voilà, mais je suis quand même beaucoup moins assidu qu'avant, et je me suis mis un peu plus à écouter du jazz, des choses comme ça. Puis, dans le rap français, il y a des artistes comme Sefiu, des artistes comme La Caution, toujours des Danny Dan.
Et alors, le futur, comment tu vois, toi, de ta petite lorgnette, le futur du hip-hop en France?
Le futur du hip-hop en France. Mais je pense que ce qui est important maintenant, après justement tout ça, les politiques qui mettent un coup et qui s'impliquent encore plus là-dedans, je pense que ce qui est important maintenant, c'est que le hip-hop et le mouvement, et les professionnels, les médias, les associations, les artistes arrivent enfin à se structurer en fait, parce que pour l'instant, ce qui fait beaucoup de mal au hip-hop artistiquement, c'est en fait de se faire récupérer, de se faire institutionnaliser de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a l'industrie culturelle qui impose les lois vraiment du business à la forme culturelle, et là il y a le monde politique, bon, qui a déjà dans toutes les années 90, depuis les années 80, qui a fortement influencé le hip-hop sans que les acteurs, les artistes, etc., fassent entendre leur voix et aient un poids dans ce processus politique. Là, justement, il y a, comme je t'ai dit, il y a le ministère de la Culture qui essaie de faire des événements à droite, à gauche, qui veulent... c'est des actions un peu, quand même, de politique spectaculaire, malgré que, j'ai dit, il y a quand même des choses positives. Mais là, il faut que on arrive à créer quelque chose comme... forme de collectif, de fédération, quelque chose de démocratique assez ouvert, pour faire comme les autres mouvements, comme la techno, comme le rock, ont réussi à faire, et de poser des enjeux, et que les instances politiques aient du répondant en face, et qu'il y ait une négociation, et pas que ce soit quelque chose de subi, en fait.
Parce que j'ai l'impression que pour un public américain, justement, ils doivent halluciner de... Le rapport subvention, tu vois, État-providence et tout, j'ai pas l'impression que ça viendra à l'idée d'un groupe de rap américain d'essayer d'obtenir des fonds culturels, tu vois. Les gars, ils essaieraient de faire leur petit business dans leur coin, plutôt qu'aller attendre du fric de droite ou à gauche, quoi.
Ouais, bien sûr, hein, mais ça, c'est toute la différence entre la France et les pays, et les Américains, les pays anglo-saxons. C'est que, comme je t'ai dit, en France, enfin, moi, je pense, en France... la culture, la musique, c'est vraiment l'État qui a un poids important dans la culture, en fait. Et sinon, si on laisse ça simplement au business, c'est vraiment un développement un peu sauvage business, Et vu que c'est l'État qui est garant un peu de la culture, qu'on le veuille ou non, l'État s'implique là-dedans et provoque des évolutions. Parce que pour l'instant, ce qu'ils font, l'État, c'est de soutenir des compagnies de danse qui se rapprochent plus de la danse contemporaine et qui intègrent un peu des artistes de hip-hop. Le problème, c'est que c'est des danseurs de hip-hop qui sont mis en scène par des chorégraphes contemporains, etc. Enfin, c'est sûr que c'est des contextes complètement différents, en fait, entre les États-Unis et la France. En France, il faut faire avec l'État, il faut faire avec cet élément-là. Donc il faut que, comme je te dis, que le hip-hop arrive à parler plus ou moins d'une voix, ou on sait que c'est impossible parce que c'est quand même difficile, mais arriver à trouver une forme où on puisse négocier avec l'État, parce qu'en France l'État est quand même encore assez fort, et en matière de culture, voilà, comme je t'ai expliqué. Mais après, aux États-Unis, je crois qu'il y a quand même des gars comme Puff Daddy, ou d'autres gars du hip-hop qui arrivent à avoir un certain poids. On voit maintenant Puff Daddy, il veut se présenter comme maire de New York. Voilà, par le business aux États-Unis, on arrive à faire son business et à monter, et après on a un poids qui arrive jusqu'à des sphères de décision, des sphères de pouvoir, et donc après, c'est toute une communauté qui est respectée. Aux États-Unis, si on arrive à faire son business et qu'on réussit, voilà, on est écouté, on est légitime pour avoir un poids dans la société. Et alors qu'en France, on a beau vendre des disques, je sais pas, la Mafia Quinfri, le 113, ont gagné des victoires de la musique, Diams, c'est les Johnny Hallyday, c'est les stars d'aujourd'hui. Johnny Hallyday, c'est une grosse star en France qui vient du rock, qui fait de la variété française, mais c'est pas pour ça que le hip-hop et que les gens qui viennent du hip-hop et des gens des populations, des quartiers populaires, des immigrations africaines, etc. Arrive à prendre cette place dans la société, parce que ça passe par une introduction des gens qui viennent de ces mouvements-là dans les sphères de décision politique. Voilà. C'est un peu technique, mais voilà.
Non, mais c'est bien d'expliquer pour le public. Alors justement, pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot, un message pour le public anglophone? Alors bon, c'est à 90% des Américains qui écoutent, mais il y a quand même 2-3 personnes ailleurs. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire sur le rap français en général, ou quoi, ou des conseils d'écoute, ou je ne sais quoi?
Bah, je pense que déjà le rap français, il faut écouter, il faut musicalement, il y a une grosse différence parce que c'est il n'y a pas les mêmes influences musicales, il n'y a pas la même culture musicale, bien que les rappeurs français ont puisé un petit peu dans la soul, dans la funk, un mimétisme des États-Unis, mais voilà, on va retrouver des samples de pays d'où viennent dont sont originaires les acteurs d'hip-hop français. Il y en a beaucoup qui viennent du Maghreb, d'Afrique noire, etc. Donc des fois ça se ressent dans les instrus. Donc voilà, après, bon, est-ce que je peux dire comme conseil, sinon conseils en ce moment, qu'est-ce qu'on peut écouter? Il y a l'album de la Mafia Quinfri qui va arriver, c'est quand même un gros truc, avec Kerry James qui est une des bonnes figures du rap français. Il y a des albums un peu plus rap Rap spé, on va dire, toujours la caution qui est bien. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Voilà quoi, il y a plein de choses qui se font. Il y a des gars comme Medine qui sont beaucoup plus dans le rap militant. Il y a Sefiu qui est du rap hardcore en ce moment, qui marche vraiment très fort. Et voilà, lui, il a joué à Rue au Grand Palais. Il y avait le ministre de la Culture qui était là, et lui, il faisait un morceau où un de ses backers portait le masque du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Et voilà, il s'adressait à lui, il lui prenait, il lui prenait par le cou, et puis après il a pris le masque de Sarkozy, il l'a montré à la foule, etc. Puis enfin bon, voilà, c'est une anecdote, mais dans le rap hardcore qu'il faut écouter, il y a ces few qui est bien, et voilà, il y a plein de choses. De toute façon, il y a plein de choses, c'est très foisonnant, et il faut aller faire un tour du côté du rap français, ça lui fera du bien aussi. Voilà.
Eh ben merci Julien, espère que ça aura...
C'est un plaisir, pas de problème.
On espère que ça aura éduqué, n'est-ce pas, la terre entière un peu plus ce soir. Et puis, ben, j'espère que tu écouteras la prochaine émission. Alors à la prochaine, salut.
Ok, ça marche, ciao.